Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussmann.
Mesdames et messieurs, nous allons continuer ce cours sur Alexandre, sur ce qu'on sait de, disons, depuis les années 47 sur l'expédition d'Alexandre, c'est-à-dire pas grand-chose de nouveau. Donc cela ira assez vite. Je voulais simplement vous dire que la semaine prochaine, c'est-à-dire le 25 mai, à la demande générale, c'est-à-dire de deux personnes, je referai ici la conférence que j'ai faite à Guimet il y a 15 jours sur l'origine de l'art du Gandhara. Au lieu de la faire en une heure, je la ferai en deux heures avec 4 ou 5 images en plus. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de séminaire, mais il y aura un cours pendant 2 heures. Ça ne vous empêchera pas de poser des questions à la fin, si vous le désirez. Je suis étonné d'ailleurs qu'il y ait si peu de questions depuis le début de ce cours et de ce séminaire. Voilà. Les indications que nous avons sur l'expédition d'Alexandre en Inde sont, comme je vous l'ai dit, très postérieures à cette expédition, puisqu'elles remontent à des auteurs gréco-romains du 1er et du 2e siècle de notre ère, donc postérieures de 4 à 5 siècles aux événements, mais des auteurs qui ont eu à leur disposition des documents datant de l'expédition même d'Alexandre, c'est-à-dire des compagnons d'Alexandre, des histoires faites d'Alexandre faites après la première génération de successeurs d'Alexandre, et qui les ont cités. Et que donc nous avions des documents dont on pouvait considérer qu'ils n'étaient pas très éloignés en temps des événements réels, et qu'ils ne déformaient pas trop la réalité, en tout cas la réalité telle qu'ont pu les voir les Grecs qui accompagnaient Alexandre, qui dépendaient pour une part, au moins jusqu'à l'Indus, d'informateurs qui étaient d'anciens administrateurs achéménides ou des gens au service de la cour achéménide, qui connaissaient donc bien la région administrée pendant 2 siècles par les achéménides, et au-delà de l'Indus, des informations qui étaient fiables en ce qui concerne les réalités que les gens pouvaient voir et qui étaient beaucoup plus douteuses en ce qui concerne les noms des populations et les forces en présence, l'évaluation des forces. De toute façon, c'est un récit de bataille, et dans les batailles, comme vous le savez, c'est comme pour les manifestations à Paris, on augmente toujours le chiffre des combattants. Et ce sont toujours des chiffres ronds. On ne voit pas très bien comment ils auraient pu estimer de façon précise le nombre des combattants s'opposant à Alexandre. Ce qui est tout à fait clair dans ces histoires, c'est que très rapidement, de son vivant même, la légende d'Alexandre a fasciné les Grecs. Et l'une partie de cette légende, c'est la lutte sur l'Hydaspe entre Poros, un très puissant roi indien, et Alexandre, Alexandre ayant réussi à vaincre Poros, l'ayant ensuite traité comme un roi, c'est-à-dire l'ayant rétabli dans ses possessions et lui ayant même accordé la souveraineté sur tous les territoires conquis entre la Djeloum, l'Hydaspès, et la Satlej, l'Iphasis, qui est la limite où s'est arrêté Alexandre. Et cette légende est illustrée par un certain nombre de monnaies sur lesquelles il y a eu une abondante littérature depuis plusieurs années, et l'an passé encore, une monnaie d'or d'Alexandre au type de l'éléphant. Voici une de ces monnaies qui est censée représenter la lutte entre Alexandre à cheval et Poros sur son éléphant, et une monnaie dont on peut penser, selon avec M. Paul Bernard et d'autres, qu'elle a été frappée à Babylone quelque temps après la mort d'Alexandre. Donc c'est un événement qui a beaucoup frappé les Grecs, parce que c'est la première fois que les Grecs rencontraient des éléphants de combat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces historiens grecs, qui étaient des militaires au départ, hein, puisque c'était les compagnons d'Alexandre, ont été beaucoup frappés par la composition des armées indiennes, qui correspond tout à fait à ce que l'on nous dit dans l'épopée indienne, c'est-à-dire des troupes composées de quatre éléments. Les fantassins, bien sûr, la cavalerie, des chars et des éléphants. Et il est intéressant, du point de vue militaire, de voir comment des chars pouvaient évoluer sur des terrains qui n'étaient quand même pas très pleins, très plats. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup étonné, comment des chars à deux roues pouvaient être utilisés en terrain qui n'est pas plat et pas lisse, parce que logiquement, dès qu'il y a un caillou, le char se renverse. Mais apparemment, non, les chars ne se renversaient pas. Ces chars étaient utilisés dans l'armée achéménide. Ils ont été utilisés de façon tout à fait traditionnelle dans les armées indiennes, et c'est ce que vous voyez illustré dans la grande bataille du Mahabharata, par exemple. Il est intéressant de voir que des militaires grecs confirment l'usage des chars. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que, au moins si l'on en croit les Grecs, il y avait une cavalerie, alors que les chevaux indiens sont des chevaux qui ne sont pas très aptes à la cavalerie. Ceux qui ont vu en Inde, les chevaux qui tirent les tongas, c'est à peu près ça, hein, la cavalerie indienne de chevaux nés en Inde. C'était à peu près ce type de chevaux, par exemple, que les Marathes avaient au XIXe siècle, au XVIIIe siècle. Et tous les souverains musulmans de l'Inde, pour renforcer leur cavalerie, faisaient venir des chevaux soit d'Arabie, soit d'Asie centrale. C'était un des grands, grands éléments du commerce intercontinental avec l'Inde, l'importation de chevaux. Eh bien, il y avait une cavalerie indienne, et une cavalerie qui ne semble pas avoir joué un rôle très important, qui était plutôt, disons, un élément de prestige plutôt qu'un élément militaire. On ne la voit pas apparaître dans le récit des opérations. Ceci dit, on a quand même un certain nombre de... Enfin, moi, qui suis par nature quelqu'un de critique, je remarque quelque chose que l'on n'a jamais remarqué, enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu quelque part, c'est que Poros, qui est le plus grand roi de l'Inde du Nord, selon les Grecs, n'a pas de capitale. Il n'y a pas un mot sur la capitale de Poros dans les historiens grecs. C'est quand même curieux, un roi qui a une armée aussi puissante et qui n'a pas de capitale. Peut-être Poros était-il moins puissant que les Grecs ne l'ont dit, des Grecs qui étaient véritablement acharnés à montrer le courage et la valeur d'Alexandre, même devant un souverain beaucoup plus fort qu'eux. Ceci dit, les autres informations sont relativement exactes et, disons, à 80% justifiées par la connaissance que nous avons maintenant de l'Inde, évidemment en tenant compte du fait que les Grecs ne connaissaient pas les langues indiennes et qu'ils interprétaient à la grecque les coutumes indiennes, exactement comme un ambassadeur de France maintenant interprétera à la française les coutumes indiennes, ou comme un commandant des forces françaises en Afghanistan interprétera les coutumes afghanes. Donc, en tenant compte du fait que les généraux et les ambassadeurs ne sont pas des ethnologues, on peut considérer que c'est une information relativement fiable. Je ne vais pas vous la détailler ici. Il n'y a rien de nouveau depuis le XIXe siècle. On a de bonnes traductions depuis le XIXe siècle. Et comme nous avons de bonnes traductions en français, je ne vais pas vous les lire. Ce que l'on ne remarque, je vais simplement vous dire ce que l'on n'a pas remarqué. La première chose qu'on n'a pas remarqué, c'est que l'iphasis, c'est la Sutlej. Hein, ça, on le sait. Et que lorsque Alexandre s'est arrêté sur la Sutlej parce que ses troupes refusaient d'aller plus à l'est, il est remonté et puis il a descendu le Chenab et l'Indus et il a quitté l'Inde, une partie de ses troupes par Quetta, une partie de ses troupes par la Gédrosie, c'est-à-dire cette côte très, très sèche, et puis une autre partie avec Néarque par bateau. Ce qui correspond à peu près exactement à la limite entre l'actuel Pakistan et l'actuelle République indienne. Alors, cette limite entre le Pakistan et l'actuelle République indienne n'est pas une limite géographique. C'est une limite entre les territoires à majorité musulmane et les territoires à majorité hindoue en 1947. Mais elle correspond quand même à quelques réalités géographiques. Ici, le désert de Thar, donc une partie désertique qui, fort heureusement, sépare le Pakistan de l'Inde, ce qui évite les incidents frontières. Et dans cette région, ça correspond à la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Indus et le bassin du Gange. Et Alexandre s'arrête donc juste ici, c'est-à-dire à peu près là où commence, au nord de Delhi, la grande plaine qui a vu s'affronter toutes les armées qui venaient conquérir l'Inde en passant par le nord-ouest, ce qu'on appelle le Kurukshetra, qui correspond en gros, et le Kurukshetra, la terre des Kurus, et non pas des Pourous qui sont censés être tous morts. Ce Kurukshetra, juste au nord de Delhi, a été le lieu des grandes batailles qui ont donné le contrôle de l'Inde aux envahisseurs venus du nord. C'est la région de Panipat, qui est à côté, pour ceux qui connaissent l'Inde, qui n'est pas très loin de l'aéroport de Delhi, l'aéroport de Palam. Ce n'est certainement pas un hasard si les compagnons d'Alexandre ont refusé d'aller plus loin, juste sur la Sutlej. Ce n'est peut-être pas parce qu'ils avaient atteint les limites de l'Empire achéménide, comme on le dit, estimant avoir rempli leur contrat envers Alexandre puisqu'ils étaient allés jusqu'au bout de l'Empire achéménide et l'avaient conquis pour lui. C'est aussi parce qu'ils abordaient une nouvelle région géographique et qu'ils abordaient une nouvelle partie de l'Inde qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et la preuve qu'ils ne le connaissaient absolument pas, c'est que nous n'avons aucun renseignement de l'époque d'Alexandre, ni de plus tard, entre la Sutlej et, disons, le Magadha, c'est-à-dire, pour reprendre une autre carte, nous n'avons aucun renseignement entre la Sutlej ici et le Magadha là, pour, c'est-à-dire toute la région, qui est quand même une région importante, qu'on appelle maintenant l'Uttar Pradesh, qui est la région du Doab, de Delhi à Allahabad ou Prayag maintenant. Il n'y a absolument aucune donnée. Les données de Mégastène, manifestement, ne s'appliquent qu'à la région de Pataliputra, aujourd'hui Patna. Cela montre à quel point l'historiographie grecque dépend de l'historiographie d'Alexandre, parce qu'encore une fois, la région entre la Djélam et le Doab, y compris d'ailleurs Patna, a été administrée pendant des dizaines d'années, et pour la région de Mathoura pendant près de deux siècles, par des Indo-Grecs, c'est-à-dire des Grecs établis en Inde, et qui probablement ont laissé quelques documents, mais ces documents n'intéressaient pas les historiographes de l'Antiquité. Ce qui les intéressait, c'était l'aventure extraordinaire d'Alexandre et le fait qu'Alexandre avait fait des exploits qui étaient l'équivalent des exploits d'Héraclès ou des exploits d'un dieu. En dehors de ça, l'impression que l'on a, c'est que la région où Alexandre est passé, en tout cas au pied des montagnes, est un pays très peuplé. Les historiens d'Alexandre parlent de dizaines de milliers de personnes, de très nombreuses villes. Par exemple, ici, ils parlent du pays des Brahmanes avec 5000 villes. Et ces villes n'ont pas été retrouvées. Alors, on peut avoir un certain nombre de doutes. On ne connaît actuellement que trois villes qui sont susceptibles d'être attachées à l'époque d'Alexandre ou à l'époque immédiatement postérieure. L'une, c'est Charsada, l'autre, c'est Taxila, et la troisième, qui est postérieure, c'est Birkot Hunday. Charsada se trouve un peu à l'est de Peshawar. C'est la ville ancienne au débouché du col de Michni, sur la rivière de Kaboul. C'est la ville ancienne du nord-ouest, Peshawar, qui s'appelait dans l'Antiquité Purushapura, la ville de l'homme qui a donné le nom de Peshawar directement, ou Kanishkapura, la ville de Kanishka, est très probablement une fondation plus tardive qui date de l'ouverture de ce qu'on appelle aujourd'hui le col de Raïber. Donc, quand vous voyez arriver Alexandre par le col de Raïber, dites-vous bien que c'est un anachronisme. Alexandre, et c'est tout à fait clair lorsqu'on lit le récit, est passé le long de la rivière de Kaboul par le col de Michni, qui aujourd'hui n'est plus utilisé. Et il est tombé sur la ville de Charsada, qui s'appelait dans l'Antiquité Pushkalavati, la ville des lotus, et dont le nom grec, Pekalaotis, transcrit tout à fait exactement la prononciation moyenne indienne de Pushkalavati, qui donne Pukalawati ou Pukalaoti. Le site est connu depuis longtemps. Il est auprès de la rivière de Kaboul. Et c'est une série de tertres. Mortimer Wheeler a fouillé l'un de ces tertres, ce qu'on appelle dans la région un déri, et ce qu'on appelle ailleurs un tel ou un tépé. Et il est très très fier parce qu'il a découvert le fossé de la ville. Donc le fossé de la ville de Charsada. Vous avez une superbe image nettoyée, un fossé bien nettoyé dans la publication de Charsada par Wheeler. Il semble que les archéologues soient très contents de découvrir un fossé. De même, Paul Bernard est très content d'avoir découvert le fossé de Samarcande enjambé par Alexandre pour tuer Clitos. En tout cas, de la Tcharsada qu'Alexandre, ou plus exactement les troupes d'Alexandre, ont pris d'assaut. Il ne reste guère que ce fossé, et à l'intérieur, on ne voit pas très bien ce qu'il y a, quel était le caractère urbain de la ville, mais ça, c'est parce que la fouille a été interrompue tout de suite. Mais de toute façon, c'était une petite ville, une forteresse, à l'entrée de l'Inde, puisque c'était à l'entrée d'un des principaux cols. Et Wheeler a dû partir parce qu'il était un peu trop colonialiste pour les Pakistanais. La fouille n'a pas été reprise, d'autant que lorsque Wheeler est parti, les photos aériennes ont montré que le tertre à côté, qui s'appelle Chairanderi, portait une structure quadrillée et que c'était la ville indo-grecque postérieure à Alexandre, puisque construite par les Grecs vers 200 lorsqu'ils ont envahi l'Inde. Donc ça a été un peu fouillé par les Pakistanais, mais pas beaucoup, et la publication de la fouille n'est pas très satisfaisante. Donc, en tout cas, ce n'est pas une très, très grande ville. L'autre ville dont l'existence est attestée, c'est Taxila, c'est le Bir Mound, c'est-à-dire la première Taxila, dont les couches anciennes remontent à 600 avant notre ère, environ, ou 500 avant notre ère, et qui est la ville où Alexandre est censé être entré, invité par le roi de Taxila, qui s'appelait également Taxila ou Taxil. Le site est connu. Si vous allez voir ça, il n'est pas entièrement fouillé, mais on a fouillé une bonne partie. Vous verrez que ce n'était pas une ville extraordinaire. C'est relativement petit. Et le troisième site est dans la vallée du Swat, ici. Alors lui, il est un peu plus tardif. Il a été fouillé par notre collègue Calieri et pour le compte de la mission italienne du Swat. C'est ce qu'on appelle Birkot Rundai. Et là aussi, vous avez une petite forteresse. Alors, les grandes villes prises d'assaut par Alexandre ou par ses troupes, ce sont des petites bourgades mal fortifiées. Et elles sont si mal fortifiées que dans les récits de guerre et les récits de conquête de villes par Alexandre, il est fait question de murailles sans jamais dire de quoi elles sont, mais il n'est jamais question de tours. Or, dans une belle fortification, vous avez des tours. Les tours jouent un rôle extrêmement important. Ce sont donc des villes à la fortification très sommaire, une levée de terre et un fossé. C'est exactement ce que l'on trouve dans l'Inde au IIIe siècle avant notre ère, comme l'a montré Hertel, ou comme l'ont montré toutes les fouilles de villes de l'Inde du IIIe siècle avant notre ère. Ce ne sont pas des forteresses extraordinaires, malgré les exploits qu'Alexandre est censé avoir faits pour les avoir prises. Et le matériel de guerre et la technique de poliorcétique, comme on dit, c'est-à-dire de conquête des villes par le matériel de guerre des Macédoniens, permettait de prendre ces remparts en une journée en général. Et ce qui est étonnant, dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que beaucoup des prétendues villes est disparu, soit complètement lessivé par la mousson, soit sous les alluvions. Pour vous donner une idée de la force de la mousson et également de la force des fondations des fondations des villes qu'Alexandre est censé avoir fondées, vous avez une toute petite remarque à la fin du livre 5 d'Arien, juste au moment où Alexandre s'en va. Et avant de partir, qu'est-ce qu'a fait Alexandre ? Il a remonté les fortifications des deux villes qu'il avait fondées l'année d'avant, qui sont Nicée, l'endroit où il avait vaincu Poros, et Bucéphale, l'endroit où son cheval est mort. Il les a remontées parce qu'elles s'étaient effondrées durant l'été à cause de la pluie. Donc ce sont des fortifications très légères. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le Punjab est très divisé entre nombreuses populations, des peuples qui sont ennemis les uns des autres ou dont les chefs sont ennemis les uns des autres, ce qui fait qu'ils se rallient à Alexandre si Alexandre détruit un de leurs ennemis, mais par contre, si Alexandre lui pardonne, il ne se rallie pas. Il y a une seule ville qui soit véritablement une capitale au-delà de l'Indus, c'est Taxila. Les autres villes n'ont pas d'autre nom. Il n'y a que deux rois, Taxil, le roi de Taxila, et Poros, le roi d'au-delà de la Djélam. Il y a des chefs, mais on ne sait pas quelle est la différence entre les rois et les chefs. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que, pour employer un vocabulaire anachronique et moderne, Alexandre est un véritable criminel de guerre. Les lois de la guerre dans la Grèce antique n'étaient pas d'une douceur extrême. Quand une ville résistait, elle était ou bien entièrement rasée comme telle, ou bien sa population était entièrement déportée et utilisée en esclavage. C'est ce qui s'est passé dans le Punjab, et le récit de la conquête du Punjab et du Sindh, c'est le récit d'une série de massacres, soit des villes lorsqu'elles résistaient, soit des fugitifs qui essayaient de s'éloigner le plus possible de l'armée d'Alexandre et qui, pour la simple raison qu'ils ne s'étaient pas soumis, étaient poursuivis et étaient abattus, même pas transformés en esclaves. Il y a quelques vagues indications sur quelques populations transformées en esclaves, mais en général, ils étaient exterminés, femmes et enfants compris. Ça n'est qu'une histoire de massacre, et il faut ajouter, ça n'est qu'une histoire de pillage, parce que si l'armée d'Alexandre l'a suivie jusqu'à la Satlej, c'est qu'elle, comme toutes les armées de l'Antiquité, elle avait un droit au butin. Alors, de temps en temps, on a une phrase disant qu'Alexandre laissa le butin à l'armée et se réserva les éléphants, qui allaient devenir un élément extrêmement important des guerres de la Méditerranée. Ça signifie que non seulement les populations étaient exterminées, mais quand elles n'étaient pas exterminées, ou quand elles étaient exterminées, l'armée se servait. Tout ce qui pouvait être emporté, et en particulier tout ce qui était des biens précieux, était emporté par l'armée et réparti dans l'armée. Et dans le dernier discours fictif d'Alexandre à ses troupes sur l'Iphasis Satlej, où il leur dit de continuer, il leur dit « Je vous ai comblé d'argent, si vous continuez, vous en aurez encore plus. » Donc, du point de vue indien, les trois années qu'Alexandre a passées en Inde du Nord-Ouest sont des années terribles. Ce sont des années, un désastre démographique et un désastre économique, malgré la fondation de ces quelques villes. Alexandre quitte cette région en 325, laissant dans quelques endroits des gouverneurs appelés satrapes à la mode achéménide, dont l'un est célèbre et s'appelle Philippe, et une population qui n'est pas très contente, puisque dès 323, il y a des révoltes. Et tous les satrapes laissés en place par Alexandre sont chassés. Probablement les quelques troupes grecques qu'ils avaient avec eux ou bien les accompagnent ou bien sont massacrés. Et le pays redevient, sinon indépendant, du moins libéré des Grecs. probablement dans un état de division extrême, mais également dans un état de vide politique, parce que les élites politiques qui existaient avant l'arrivée d'Alexandre, ou bien s'étaient ralliées à lui et donc ont été chassées en même temps que ses satrapes, ou bien avaient été exterminées par lui et donc n'existaient plus. Et c'est dans ce vide politique qu'émergera, nous disent les Grecs, d'une manière moins nette, mais les sources le laissent entendre, un Indien dont les sources grecques nous disent qu'il s'appelait Sandrakotos ou Sandragyptos, qui est la transcription tout à fait exacte du nom Chandragupta, qui est connu par les sources indiennes également, soit les Puranas, soit le Mahavamsa, et qui va être le fondateur de l'empire Maurya. Nous avons un texte grec qui nous dit que Chandragupta a rencontré Alexandre. En fait, il l'a fui, il a été fait prisonnier, il a été libéré. Il y en a un autre qui nous dit qu'il établit les bases de sa grandeur à peu près au moment où Alexandre mourait, c'est-à-dire à partir de 323, juste au moment où l'Inde se libérait de la pression des Grecs. Et il semble que ce soit à partir de l'Inde du Nord, où il y avait un vide politique, que Chandragupta ait pu recueillir des forces et ensuite conquérir toute l'Inde de l'Est et établir son règne à Pataliputra, Patna. C'est le début de l'empire Maurya. Alors, les sources grecques, les sources indiennes connaissent Chandragupta, le Mahavamsa, qui est une source pâlie de Ceylan, qui n'en dit pas grand-chose, simplement la durée de son règne, et les sources, disons, hindoues, qui le connaissent un peu mieux, parce qu'il est le héros d'une pièce qu'on appelle la Mudra Rakshasa, le Rakshasa au sceau, ou le sceau du Rakshasa, qui est une pièce tout à fait célèbre, dont le premier héros aurait été la personne qui aurait aidé Chandragupta à vaincre le dernier souverain non Maurya du Magadha, un des fameux Nanda dont la chronologie et même le nombre pose problème. Et ce premier ministre de Chandragupta porte un nom célèbre dans la science politique indienne, qui est Kautilya ou Chanakya, qui passe pour le fondateur de la science politique indienne et l'auteur du seul texte de politique indien que nous connaissons, qui est l'Arthashastra. Donc, nous arrivons en terrain beaucoup plus sûr, avec une chronologie qui, grâce à Alexandre et grâce aux dates d'Ashoka, est un peu plus sûre. Elle n'est pas tout à fait sûre. Elle est à 4 ou 5 ans près et elle a un point faible, c'est qu'elle dépend des durées de règne données par les Puranas, qui sont des textes peu fiables. Enfin, ça correspond à peu près. Donc, je vais vous donner les dates telles que vous les trouverez dans l'Inde classique, qui est dans la partie historique de l'Inde classique, qui a été rédigée par Jean Fidioza, et qui, à quelques détails près, est encore aussi vrai aujourd'hui qu'en 1947, quand le volume est paru, ce qui vous prouve que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux. Mais c'est tout à fait normal. Pour qu'il y ait du nouveau, il faudrait qu'il y ait de nouveaux indices qui soient publiés, c'est-à-dire de nouveaux textes ou de nouvelles inscriptions ou de nouvelles monnaies ou de nouvelles indications. Or, on n'a absolument rien de nouveau, en tout cas pour Chandragupta et pour son successeur. Donc, les trois premiers rois de l'Empire Maurya, appartenant à une dynastie dite Maurya, c'est-à-dire Rajputra, Kshatriya. Et l'étymologie de Maurya, c'est le pan. On a beaucoup spéculé sur le clan du pan. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Mais en tout cas, Chandragupta aurait été actif au Punjab vers 323, donc, et même avant, puisqu'il aurait rencontré Alexandre vers 325. Il aurait été couronné en 313. Là, on a des synchronismes utilisés par Filiosa, même si son faux à quelques mois ou quelques années près, c'est une année tout à fait acceptable. Et selon les Puranas, il aurait régné 24 ans. C'est-à-dire qu'il serait mort en 289. Il aurait eu pour successeur son fils, que les sources indiennes appellent Bindusara et que les sources grecques appellent Amitrokathès, ce qui se restitue très facilement en sanskrit et en moyen indien comme Amitragata, celui qui tue ses ennemis. Celui qui tue ses ennemis, sauf que Amitragata n'est pas du tout attesté dans les sources indiennes. Sur Bindusara, on ne sait absolument rien, sauf qu'il aurait reçu deux ambassadeurs hellénistiques, Deimakos, envoyé par Antiochos I de Syrie, et à la même époque, Dionysos, envoyé par Ptolémée II, qui était le roi hellénistique d'Égypte. Selon les Puranas, il a régné 28 ou 25 ans, et donc on le fait régner de 289 à 261. Ashoka donc lui succède. Sur Ashoka, on n'a pas de date précise, mais il y a un des édits d'Ashoka qui signale qu'il a envoyé au roi hellénistique de l'Ouest des ambassadeurs. Il y a quatre rois. Et donc, connaissant la date de ces quatre rois, on connaît à peu près la date de l'édit et on connaît à peu près la date d'Ashoka. À partir de cette date, on raisonne sur les dates que l'on connaît de Bindusara et de Chandragupta et autres, et on obtient un schéma chronologique qui est tout à fait acceptable, qui est celui de Filiosa, que je préfère à celui d'Egermont, et qui varie selon le fait que l'on tienne ou non compte d'une indication du Mahavamsa disant qu'il a été couronné, exactement Ouin, Abhishikta, Ouin, 4 ans après sa prise de pouvoir. Alors, ou bien vous croyez à ces 4 ans d'intervalle, ou bien vous n'y croyez pas, mais de toute façon, dans l'indétermination chronologique où nous sommes, 5 ans et rien, c'est la même chose. Et donc, les dates d'Ashoka seraient 261, peut-être 264 si Bindusara, au lieu d'être mort en 261, est mort en 264. Il aurait été sacré en 260, s'il a pris le pouvoir en 264, il serait mort vers 227. Donc, la dynastie Maurya couvre tout, en gros, la fin du IVe siècle et le début, la première moitié du IIIe siècle avant notre ère. Il y a eu quelques successeurs d'Ashoka. On les connaît par les Puranas. Leur nom ne nous dit rien. On sait que le dernier des Mauryas a été renversé vers 200 par un de ses généraux qui s'appelait Pushyamitra et qui a été le fondateur de la dynastie Shunga. mais à l'époque, il ne devait pas rester grand-chose de ses possessions. Et il est probable que, alors que Ashoka a contrôlé une très grande partie de l'Inde, c'est le moment où l'Inde est quasiment unifiée sous un seul pouvoir, mais il est probable que ses successeurs ne contrôlaient plus qu'une toute petite partie de l'Inde, probablement cette région. Probablement cette région-ci et la région de Bharat dont nous avons beaucoup parlé, puisque les Indo-Grecs, enfin les Grecs devenus ensuite Indo-Grecs arrivant ici, n'ont apparemment pas rencontré le pouvoir maurya. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Je vous l'ai dit, sur Chandragupta et sur Bindusara, depuis 1947, il n'y a strictement rien de nouveau, puisque l'essentiel des données vient des sources grecques, et que ces sources grecques sont connues depuis le XIXe siècle. La seule chose qui est nouvelle concernant Chandragupta, c'est le fait que... Bon, il y a trois choses. La première, c'est que nous avons maintenant une bonne édition de l'Arthashastra de Kautilya. Je vous ai dit que Kautilya est censé avoir été le premier ministre de Chandragupta. Il était connu comme l'auteur d'un traité de politique, l'Arthashastra, donc littéralement le traité des choses matérielles, qui était perdu et qui a été retrouvé en Inde du Sud en 1909, l'édition Shamashastri. Et nous avons depuis 1960, par Kangley, une très bonne édition critique de ce texte, donc qu'il n'existe qu'un manuscrit ou deux, et qui a été publié à Bombay. Donc vous avez l'édition critique, la traduction anglaise et un commentaire. Et on renvoie toujours à cela maintenant. Avant cette édition de Kangley, il y a eu entre 1909 et 1960 toute une série d'études très précises. Depuis, il y a eu peu d'études, tout simplement, pour une raison simple, c'est que c'est un texte unique et que, selon le point de vue que vous adoptez, vous pouvez le dater de l'époque de Chandragupta, vous pouvez le dater du IVe siècle de notre ère, vous pouvez considérer que c'est un texte du nord de l'Inde, vous pouvez considérer que c'est un texte du sud de l'Inde, et vous pouvez, en utilisant des techniques de comptage, essayer de trouver plusieurs mains ou une seule main dans ce texte. Ce qui est surprenant de mon point de vue hypercritique, c'est que ce texte continue à être utilisé comme une source historique. Et alors, c'est très curieux, parce que si vous écrivez sur les Mauryas, si vous lisez un livre plutôt sur les Mauryas, vous verrez une description de la société maurya dont nous ne savons rien, à part ce qu'écrit Mégastène, à partir de l'Arthashastra. Si vous parlez de l'Inde du IIe siècle de notre ère, vous aurez une description de la même société à partir du même texte, parce qu'on considère que c'est un texte du IIe siècle. Et si vous lisez un bouquin sur les Gupta, vous aurez une description de la société à partir de l'Arthashastra, parce que c'est le seul texte qu'on a, donc il faut utiliser ce qu'on a. Quand on regarde ce texte, c'est un shastra, c'est-à-dire c'est un traité théorique. C'est un traité théorique indien, et ça ne prétend pas décrire un état réel. C'est une série de conseils, et c'est pour cela que certains ont comparé l'Arthashastra de Kautilya à Machiavel. Donc c'est un ouvrage théorique qui est destiné à un souverain, et ce souverain est censé, pour assurer la pérennité de son royaume, agir dans tous les domaines, que ce soit la politique intérieure, la fiscalité, l'économie, les relations avec ses voisins, selon les préceptes de l'Arthashastra. C'est un ouvrage qui est en rien descriptif, mais qui est un ouvrage prescriptif, ce qui devrait déjà nous inciter à une certaine modestie vis-à-vis de la valeur des renseignements qu'il fournit. Les renseignements qu'il fournit sont en partie corroborés par d'autres sources indiennes. Mais ces sources indiennes sont très hétérogènes. Ça veut dire que ce qui est clair, c'est que le vocabulaire technique de l'Arthashastra est un vocabulaire que l'on retrouve dans toute une série d'inscriptions indiennes. Ces inscriptions indiennes sont de lieux et sont de dates très diverses. Donc c'est un texte qui semble avoir mélangé un certain nombre d'informations, mais surtout ce qui est extraordinaire, c'est que c'est, et qui a été remarqué par Candle, bien qu'il croit que ce soit un ouvrage maorien, mais il l'a souligné, il est l'un des seuls à l'avoir souligné, c'est que c'est un texte qui est fait pour un petit royaume encerclé par des ennemis. Or, nous ne savons pas quelle était exactement la taille de l'empire de Chandragupta, mais c'était au moins de Kandahar, ici, jusqu'au Bengale, et probablement jusqu'à l'Avanti, c'est-à-dire probablement tout le nord de l'Inde. Ce qui n'est pas un petit royaume entouré d'ennemis. Or, toutes les indications de l'Arthashastra sont valables pour un tout petit royaume. Autant dire que le texte est un texte qui témoigne de ce que peut être un traité politique dans l'Inde entre le 3e siècle avant notre ère et le 4e siècle après, comme on dit souvent, ça fait 7 siècles, mais ça n'est pas une source pour décrire l'administration de Chandragupta, même s'il y a un certain nombre de constantes, par exemple sur la perception des impôts. On sait que jusqu'au 19e siècle, par exemple, la perception de ce qu'on appelle la rente agricole, la partie de la récolte qui revenait au souverain, a été à peu près au même taux dans l'Inde, c'est-à-dire un tiers de la récolte, parfois un peu plus, et que cela n'a pas varié. Donc il y a une persistance d'un certain nombre d'institutions en Inde. On peut extrapoler et penser qu'elles existaient déjà sous Chandragupta, mais en fait, ça, nous n'en savons rien. La seule chose que nous savons sur Chandragupta et l'état de l'Inde à son époque, c'est la description de Mégasthène, avec qui a été l'ambassadeur de Séleucos auprès de Chandragupta. Et c'est une description qui ne vaut que pour le Magadha, et en particulier la région de Patna-Pataliputra, qui insiste sur la puissance du royaume, sur sa population. Patna aurait eu 700 000 habitants, c'était une des villes les plus grandes du monde à l'époque, et c'est partiellement confirmé par les fouilles archéologiques, et qui nous donne une description de la population indienne que l'on peut admettre. Alors, il y a toute une série de débats sur le fait que Mégasthène divise la population entre 7 classes, alors que la division traditionnelle en Inde, c'est soit les 4 Varnas, les 4 grandes catégories de population, les Brahmanes, les Kshatriyas, les Vaishyas, les Shudras, et non pas 7, ou alors c'est une multitude de ce que nous appelons les castes, les Jatis. Mais il faut se souvenir que Mégasthène était un Grec et qu'il a rendu compte de ce qu'il voyait et qu'il n'était pas un ethnologue, qu'il n'était pas un anthropologue, et qu'il ne lisait pas les traités théoriques indiens qui, probablement, à son époque, n'existaient pas encore. Donc, ça signifie simplement que pour Mégastène, il y avait sept catégories d'Indiens. Ça ne veut pas dire qu'un pandit indien lui aurait divisé ça en sept. Vous voyez à peu près ce qu'un Américain ou un Chinois arrivant aujourd'hui à Paris dirait des classes sociales à Paris. C'est à peu près du même genre. Hein. Ça nous donne des renseignements importants quand même sur l'hérédité des professions et quelque chose qui est apparemment contredit par la réalité, c'est le fait que lorsqu'il y avait des guerres, donc il y avait des guerres du temps de Mégastène, sous Chandragupta, la conquête n'était pas terminée, lorsqu'il y avait des guerres, les armées s'affrontaient sans gêner en quoi que ce soit les paysans qui travaillaient dans les champs. Ce qui, a priori, est invraisemblable, mais ce qui est en plus démontré comme étant faux par les faits, puisque une inscription célèbre d'Ashoka nous indique qu'il s'est converti au bouddhisme après avoir conquis le Kalinga, c'est-à-dire cette région, la région qui est juste au sud du Bengale, la région de la région de Konarak et de Puri et d'Udaigiri, les grottes bouddhiques d'Udaigiri, et que cette conquête a entraîné 300 000 morts, et que ces 300 000 morts n'étaient pas que des militaires, mais qu'il y avait aussi des civils, et qu'il en était ainsi de toutes les conquêtes. Donc, dans le récit de Mégastène, comme il est normal, il y a une part d'observation vécue et probablement une part de ce qu'on lui a dit. Il est possible que quelqu'un lui ait dit « Quand nous avons une guerre, nous nous respectons les gens », de même que les militaires français, américains ou chinois, quand il y a une guerre, font très attention à ce qu'il n'y ait pas de victimes collatérales, comme on dit. Ça a autant de valeur. Bien. Ce qui... Nous n'avons pas d'inscription de Chandragupta. Ce qui est nouveau depuis 1947, ce sont deux choses. Il semble bien que l'invention de l'écriture Brahmi date de son règne, ou des environs de son règne. La Brahmi est attestée pour la première fois de façon sûre sous le règne d'Ashoka. Il y a peut-être deux inscriptions antérieures en Brahmi, mais on peut en discuter. Et lorsque la Brahmi apparaît sous Ashoka, c'est un système qui est quasiment parfait pour les écritures indiennes. Or, nous avons un système non daté, mais probablement mais nettement moins parfait dans le nord-ouest de l'Inde, qui est la Kharoshthi. La Kharoshthi est une écriture araméenne adaptée, mais de façon très sommaire, à la notation des écritures indiennes. La Kharoshthi, par exemple, ne note pas la longueur des voyelles parce que dans les langues sémitiques comme l'araméen, la longueur des voyelles n'a pas d'importance. Par contre, dans les langues indiennes, la longueur des voyelles a une importance extrême. Eh bien, la Kharoshthi ne note pas ses voyelles. Il y a un certain nombre de signes Kharoshthi qui se ressemblent beaucoup, comme dans les écritures arabes, ce qui fait que si vous ne connaissez pas le mot avant de le lire, vous avez beaucoup de mal à le lire. Et c'est donc une écriture qui n'est pas simple. Bien qu'elle soit restée en usage dans le Gandhara jusqu'au 3e, 4e siècle de notre ère. Mais vous savez qu'une fois qu'une écriture est en usage, ça, elle est quasiment sacralisée et il est très difficile de passer à un autre système. Songez à quelque chose qui est lié à l'écriture, puisqu'il s'agit de sa simplification, à l'impossibilité de faire une réforme orthographique en France, qui est simplement une impossibilité d'écriture. Hein, ça, écrire pharmacie avec PH ou F, ce n'est pas d'orthographe, c'est de l'écriture. On n'arrive pas à l'obtenir en France, les Italiens l'ont obtenu il y a longtemps. Songez au fait que dans tout un certain nombre de pays musulmans, l'alphabet arabe qui avait été remplacé par l'alphabet latin ou l'alphabet cyrillique revient en force. Il y a dans l'écriture quelque chose de sacré qui fait que les gens y tiennent. Et c'est un élément de leur identité non seulement locale, non seulement nationale, mais également religieuse et même personnelle. C'est ce qui explique que la Kharoshthi se soit maintenue, mais on ne peut pas imaginer que la Kharoshthi ait été inventée après la Brahmi, puisque la Brahmi, elle, est parfaite, d'une certaine manière, elle note la longueur des voyelles, et surtout, les signes sont extrêmement cohérents, très distincts et très cohérents. Et donc, si vous regardez une inscription d'Ashoka, vous verrez qu'il n'y a pas de possibilité de confondre un pa, un ba et un ta, ou un ra, alors qu'en Kharoshthi, c'est tout à fait simple. La seule chose que la Brahmi note mal, ce sont les consonnes doubles. Elle ne les note pas plus exactement. Ce sont les consonnes doubles, mais ça n'a pas une énorme importance. Il est impossible de penser que la Kharoshthi imparfaite ait été inspirée par la Brahmi parfaite. Par contre, il est tout à fait clair que la Kharoshthi a été inspirée par l'administration achéménide. C'est dans le nord-ouest qu'on a commencé à utiliser l'écriture pour gérer l'administration, en faisant, à partir de l'écriture araméenne qui était employée sur place, une écriture plus ou moins adaptée aux langues indiennes. Et c'est lorsque cette innovation a paru intéressante pour les souverains indiens qu'il y a eu une adaptation bien meilleure aux langues indiennes, probablement par des grammairiens indiens. Alors, si l'on regarde la suite des événements, il est clair que le Punjab a été sous occupation achéménide à peu près jusqu'à Alexandre, qu'après il y a dû y avoir deux ou trois années d'administration grecque, et qu'ensuite, si l'on en prend nos sources, le Punjab est passé au pouvoir de Chandragupta et que c'est à partir du Punjab qu'il a conquis tout l'est de l'Inde. Et l'on imagine très bien que Chandragupta, ayant connu une administration écrite dans le nord-ouest de l'Inde et imité cette administration ou mis sur pied une administration semblable à Patna, et grâce à un certain nombre de pandites et de grammairiens, fait une écriture qui, prenant avantage du fait qu'il existait la Kharoshthi et que ses imperfections étaient reconnues, a établi une écriture tout à fait adaptée à la notation des langues indiennes de l'époque, c'est-à-dire au moyen indien. Donc, sous Chandragupta, vous avez un phénomène important, très probablement, ou peut-être sous Bindusara, ou peut-être quelques années avant Chandragupta, l'invention de la Brahmi, qui est l'origine de toutes les écritures indiennes actuelles, non seulement l'écriture népalaise, la Nagari du nord de l'Inde, mais également les écritures tamoules et les écritures du Cambodge. Alors nous continuerons cela sur dans 15 jours, puisque je vais sauter provisoirement mes considérations sur l'Empire Maurya. Je vais les sauter la semaine prochaine pour vous parler pendant 2 heures de l'origine de l'image du Bouddha. Voilà. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.